Bienvenue à l'Antichambre. Merci d'être avec nous. Une version express ce soir. On est là pour les 30 prochaines minutes en deuxième partie d'émission. Marie-Ève Dicker sera avec nous. Elle revient, elle, de son combat d'unification, combat qu'elle a perdu contre Natasha Jonas. Mais on va en parler avec Marie-Ève un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais d'abord, on va parler de hockey avec un duo de Stéphane ce soir. Stéphane Fizet, Stéphane Leroux. Messieurs, bonsoir.
Salut, Luc. Bon.
Stéphane, toi, t'as couvert la dernière saison junior de Stéphane. Et là, à ce moment-là, c'était sa dernière.
Et on était déjà sûr à ce moment-là qu'on ferait des émissions
de... on l'avait signé.
Tout était décidé, à ce moment-là.
À Victoriaville, dans le temps.
On a même signé un contrat la même journée.
Quand les
Tigres... Oui, un contrat important.
Bleu, blanc, rouge. Ouais. On a signé notre contrat la même journée.
Exactement, oui. Une couple d'années plus tard.
Ouais.
Beaucoup d'affinités entre ces Stéphane et on va en parler du Canadien ce soir. Mais d'abord, les manchettes Albi, le géant, messieurs. Et on commence avec Stéphane Leroux.
C'est rare que je suis dans première position ici. C'est rare qu'on commence à que je prends ça comme un privilège. Ben moi, je voulais parler de Roberto Luongo. C'est une soirée quand même historique pour lui, le genre de soirée que tu n'oublies jamais, évidemment. De Val d'Or au Temple de la Renommée. Moi, je me souviens de Roberto quand il est arrivé quelques années après toi, d'ailleurs, avec les Foreurs de Val d'Or. Deuxième choix au total de la séance de sélection de la LHJMQ en 95. Il n'y avait pas le plus grand sourire quand il est arrivé sur l'estrade. On s'en allait à Val d'Or. Puis moi, ce que je veux dire, je veux me servir de la petite tribune que j'ai ici. Là, les jeunes qui jouent là, présentement dans les rangs M18 puis tout ça, puis que le repêchage va arriver. Puis des fois, ça te fait peur. Je veux pas aller dans un petit marché. J'aimerais ça aller à Québec. J'aimerais ça aller à Moncton, à Halifax. Mm-hmm. Comme Marc Denis dit souvent, Québec peut pas jouer contre Halifax tout le temps, tous les matchs. Ça n'en prend les autres marchés. Puis ce bonhomme-là, Roberto Luongo, a joué dans deux des plus petits marchés de la Ligue, Val-d'Or et Batters. Et ça ne l'empêche pas d'avoir la carrière qu'il a eue et d'entrer ce soir au Temple de la Renommée. Alors, peu importe où vous allez être, si vous êtes bon, si vous performez, puis si vous avez le vouloir, puis tout ça, je pense que...
Tu sais, quand tu es un bon joueur, puis une équipe comme ça te repêche, un, parce qu'ils te veulent, deux, c'est à toi de tourner cette situation-là à une situation positive.
Ouais.
Tout simplement, c'est peu importe, tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, c'est jouer au hockey, peu importe l'endroit où c'est que tu vas aller... C'est fun de jouer au hockey, que tu sois à Val-d'Or ou n'importe où.
Si tu es bon, tu seras vu quand même, peu importe le marché.
Le prochain qui va entrer probablement du Québec au Temple de la Renommée un jour, ça va être Marc-André Fleury, puis il a joué au Cap-Breton. Lui aussi, un autre endroit qui fait peur souvent à des joueurs et à des mamans qui ne veulent pas voir leur fils partir trop loin. Alors, retenez ça. Peut-être que sur le coup, ça peut être un choc, parce que Val-d'Or, dans le temps, aujourd'hui, c'est moins loin, mais dans le temps, c'était un des plus loin de la Ligue, Val-d'Or, tu sais, ça faisait peur. Exact. Mais il a très bien fait ça, Roberto, puis chapeau. Puis c'est le 14e joueur qui a déjà joué dans la Ligue junior majeure du Québec à entrer au Temple de la Renommée du hockey.
Stéphane Fizet, ta manchette ce soir.
Moi, je vais y aller. Vous allez recevoir tantôt Marie-Ève Dicker. Puis c'est fierté. Moi, je pense que c'est une fierté pour le Québec. On est chanceux d'avoir une athlète comme elle. C'est peu importe. Oui, c'est plate. Elle a perdu son combat. Mm-hmm. Mais elle a accompli tellement de choses dans son domaine de la boxe. C'est pour moi le plus grand connaisseur de ça, là, absolument pas. Mais de la voir aller, comment elle se comporte c'est dans les médias, avec le public, est impliquée dans plusieurs choses, est connue, c'est mondialement là, maintenant, là, elle est connue partout par rapport à son sport, la boxe. Puis c'est une personne, là, c'est... On peut être fier, maudit, d'elle. Fait, oui, c'est plate, mais chapeau, Marie-Ève.
Elle m'a même... on va certainement en parler avec elle, mais elle a eu une ovation à la fin de son combat. C'était en Angleterre, à Manchester. Donc, oui, toute une athlète, Marie-Ève Dicker. Messieurs, si vous le voulez bien, on va parler du Canadien. Je sais, messieurs, que vous êtes friands de statistiques, mais si je vous dis que le trio de l'heure, présentement...
Stéphane, il connaît tout!
Si on parle du trio de l'heure, présentement, dans la Ligue nationale de hockey... ou des trios de l'heure. On peut parler certainement du trio Caulfield, Suzuki et Kirby Doc. Depuis le 29 octobre dernier, au moment où on les a réunis, regardez là, c'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Un peu comme le Canadien cette saison, qui l'eût cru qu'avec Kirby Doc, ça fonctionnerait.
Bien, c'était pas ça qui était le plan. Dak, on le voyait au centre, évidemment, mais pour l'instant, il y a 21 ans, qu'est-ce que ça peut bien déranger qu'il joue à l'aile droite en ce moment puis qu'il fonctionne très bien sur un trio explosif? C'est seulement 7 matchs, là. Faut pas partir en peur. Il y a quelqu'un au 5 à 7 tantôt qui nous a écrit et a dit « Est-ce que c'est le meilleur trio du Canadien depuis Schott, Lemaire et Lafleur?
Oh, »
On va se garder une petite gêne, comme
calmer.
On dit. Il y en a eu quand même d'autres depuis ce temps-là, heureusement. Mais il reste que là, en ce moment, ça fonctionne. Moi, j'ai hâte de voir sur le long terme, les matchs à l'étranger surtout, quand on est capable d'opposer les bons défenseurs et les bonnes lignes d'attaque contre ces trois-là, qu'est-ce que ça va donner? Mais pendant que ça fonctionne, profitons-en.
Est-ce que c'est depuis longtemps un premier véritable premier trio de la Ligue nationale.
On voit des noms du Canadien dans les meilleurs pointeurs de la Ligue, ce qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Tu sais, je veux dire, Carey Price, on a souvent parlé de lui. Il a joué à Montréal pendant 15 ans. Une fois, il y a eu un joueur qui a fait 80 points dans une saison pendant qu'il était là. C'est Alex Kovalev. Alors, pendant 15 ans, tu as eu un gars de 80 points. Là, potentiellement, tu en as deux, peut-être trois, si la tendance se maintient. Puis je répète que c'est
mais Stéphane, c'est cool. Qu'est-ce que j'aime de ce trio-là? C'est un trio qui se complète énormément. Tu as un des meilleurs passeurs de la Ligue, là. En tout cas de son équipe, ça c'est Suzuki. Sûr et certain, qui a une vision vraiment incroyable en Suzuki. Ensuite, tu as un Caulfield qui est capable de marquer des buts de à peu près de n'importe où avec son lancer. Puis Doc, lui, qu'est-ce qui arrive? Il vient compléter ce trio-là. C'est un joueur qui est capable de jouer physique. C'est un bon passeur. Il a quand même une belle vision. Puis présentement, lui, là, il se concentre à jouer au hockey nord-sud.
Il n'y a pas la responsabilité.
Du joueur de centre, de gagner ses mises en jeu, d'être le premier revenu, d'être toujours en support dans la zone défensive. Là, présentement, là, c'est comme Martin Saint-Louis, il a dit, gars, embarque sur la glace, puis amuse-toi. Ça donne la rondelle aux autres, va chercher, puis amuse-toi, puis let's go, on va voir ce que ça va donner. Puis présentement, ça donne du bon hockey. Là.
Mais c'est pas un peu ça qui se passe chez le Canadien. Amusez-vous.
Ouais.
Et dans le plaisir, tu peux enseigner. Tu peux corriger, puis ce sont de jeunes joueurs, mais il y a l'effet Martin Saint-Louis. Avez-vous l'impression qu'il y a ça un peu?
Ben oui, il y a ça. Puis moi, ce que je disais aussi tantôt, puis je trouve ça important. Tu sais, le hockey, oui, tu veux que ton équipe gagne, puis je pense que les partisans du Canadien veulent que l'équipe remporte le plus de victoires possible. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça aussi, ce qu'on veut, c'est quand on s'assoit au Centre Bell pour regarder le match ou à la télé, qu'on ait du plaisir. Puis là, en ce moment, il y en a. Là. En début de saison, en tout cas, il y en a. L'an passé, à ce temps-ci, là, ça allait pas du tout. Pour gagner 7 matchs l'an passé, ça a pris 37 jours de plus aux Canadiens que cette année. On est comme 5 semaines en avance pour la 7e victoire. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'ils vont avoir de la misère à en gagner 10 à l'étranger. Puis je pense que je vais m'être fourvoyé avec cette prédiction-là. En tout cas, si je me fie à ce que je vois en ce moment, c'est un court échantillon, je le répète. C'est important de dire aux gens que c'est un court échantillon puis de ne pas partir en peur. Mais c'est le fun.
Il y a un climat, que Stéphane, qui s'est installé dans cette équipe-là.
Absolument. Si tu vois que les jeunes... Même les vétérans qui sont là, ils ont beaucoup de plaisir, puis ils appliquent vraiment ce que Martin leur demande. Tu sais, Martin, c'est un coach qui communique très, très bien. On le voit aussi dans ses conférences de presse après les matchs, mais c'est un bon enseignant aussi. Tu écoutes les conférences de presse après les matchs, tu as le même discours de la part des joueurs que tu coaches. Fait que ça veut dire que, un, le message passe vraiment très bien, puis il l'applique durant les matchs aussi. Fait que c'est pour ça qu'est-ce qu'on voit présentement, bien, c'est le résultat de qu'est-ce que Martin apporte. Puis Martin, ça a été un gars qui n'a jamais abandonné dans sa carrière.
Déjà été au balotage, puis il est au temple de la renommée, lui aussi, c'est incroyable.
Comme Stéphane Robida, que ça n'a pas été facile non plus aussi, Alex Burrows, faire leur chemin.
C'est l'ADN de ces trois entraîneurs-là, puis tu fais bien de le mentionner. Puis Trevor Letoski.
Tu peux rajouter l'entraîneur des gardiens aussi là-dedans.
Là. Éric Raymond, ouais, mais Éric Trevor Letoski, qu'on connaît moins, mais tu as raison. Alex Burrows a joué à 20 ans dans le junior, jamais été repêché, puis il a profité à un certain moment de sa chance. Martin Saint-Louis, on le sait, l'histoire de sa carrière, puis tout ça. Puis tu fais bien, Stéphane Robida, le travail qu'il fait avec les défenseurs en ce moment, c'est phénoménal.
Parlant de défenseur, Caden Goulet, certains analystes du côté anglophone parlent de Caden Goulet comme l'éventuel défenseur numéro un chez le Canadien. Évidemment,
Aucun doute. Il va être numéro un du Canadien. Bien, peut-être pas cette année en termes de temps de glace, d'efficacité, mais d'ici 3 ans et pour longtemps, il va être... Il est le... Caulfield ou Suzuki des défenseurs en ce moment pour le Canadien. T'sais, c'est le jeune prodige de 20 ans qui arrive et qui connaît du succès en ce moment. Moi, je suis pas surpris de ça parce que ce que j'avais vu de lui au niveau junior, les entrevues que j'avais faites avec lui, j'adorais son calme. J'ai souvent comparé à Weber avec la garnotte en moins, là, mais en côté attitude, côté... Puis il est probablement un meilleur patineur que Weber était, déjà en partant. Pas aussi gros physiquement. Puis comme je vous dis, elle va pas à 109 000 à l'heure dans le filet, mais... Weber était le défenseur numéro un du Canadien. Il n'y a pas de raison que ce jeune homme-là ne le devienne pas. Là.
Qu'est-ce qui fait, Stéphane, qu'un jeune défenseur peut être aussi confiant? Il y a une marge quand même entre le junior puis la Ligue nationale, mais qu'il soit capable, avec les outils qu'il a, pas stressé, pas... Oui, comme quelques petites erreurs, mais qu'on pense beaucoup par plein d'aspects.
Ça fait partie de lui, son ADN. C'est un jeune qui est mature. En dehors de la glace et sur la patinoire, c'est un jeune qui panique pas. Puis il est jumelé aussi avec quand même, avec Savard, qui, c'est un grand frère pour lui là présentement. Là. Fait qu'il est capable de ressentir si le jeune à côté qui est nerveux moindrement, il est capable de se parler, de le calmer. Puis Mais ça reste qu'il joue de grosses minutes, puis il joue toujours des grosses minutes contre les gros trios de l'autre côté. C'est ça qui est impressionnant aussi. Là, c'est, il joue pas contre le troisième, quatrième trio. Ça a-t-il passé contre Pittsburgh? Là, c'est qui jouait contre le trio de Sidney Crosby?
C'est Goulet et Savard.
Est-ce qu'on a vu Sidney Crosby sur un match samedi?
Pas de points en deux matchs contre le Canadien.
Ça, et lui, il a profité des blessures. Oui. Parce qu'il n'aurait pas eu cette entelasse-là si Matheson et Edmondson avaient été là en début de saison. Alors, les autres, Jack High et Harris, eux, ont profité pour se tailler une place dans l'équipe. Et Goulet lui a profité d'être plus haut dans l'échiquier des défenseurs.
Ah ben, avec ce que vous dites, ils affrontent, lui et Savard, les meilleurs trios adverses. Quand on regarde les statistiques, et là, encore une fois, je te fais un clin d'œil, Stéphane, parce que je sais que tu aimes les statistiques, parmi les recrues de la Ligue nationale de hockey, Caden Goulet a des statistiques quand même assez intéressantes. Quand on regarde les points à 5 contre 5, il vient au premier rang avec 7.
Pas juste parmi les défenseurs, là, parmi toutes les recrues.
C'est
quand même intéressant.
Ça, ouais. Les tirs bloqués, ça, c'est devenu une marque de commerce pour à peu près toute la brigade défensive, ou même, je dirais, tous les joueurs chez le Canadien. On est quasiment soufflé à voir ces chiffres-là de Caden Goulet. On le savait bon, mais à ce point.
Mais en ce moment, il fait partie des candidats au Trophée Calder.
Absolument.
Tu sais, je veux dire, là, il est tôt encore, je me répète, on le dit souvent, là, 15 matchs, mais c'est sûr que si ça continue, à la fin, il faut que tu évalues, exemple, un Matthew Beniers avec Seattle qui va peut-être finir avec 50 points versus un Goulet qui va finir avec 20-25 points, mais qui apporte tout le reste autour. Tu sais, ça arrive, des défenseurs gagnent le trophée Calder, puis c'est pas nécessairement les meilleurs pointeurs. Là.
Mais là, Madison va revenir bientôt. On l'a vu à l'entraînement aujourd'hui, l'intensité, on augmente. Quand il revient, il y a quelqu'un qui va payer la note.
Ouais.
On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Mais les responsabilités de Goulet, est-ce qu'on les diminue parce que Madison revient? Il ne joue pas en avantage numérique, Goulet.
C'est correct aussi.
Oui?
C'est correct. Mais pour moi, personnellement, je trouve ça correct parce que ça reste que c'est quand même un jeune. Il y a déjà, on l'a vu sur le tableau, en moyenne 20 minutes 45 par match. Si tu commences à lui donner 22, 23, 24 minutes, c'est peut-être ces 2-3 minutes-là qui vont l'affecter.
Est-ce que tu lui en donnes moins quand Madison revient?
Absolument pas. Moi, je crois que Madison le mérite, son temps de glace.
La paire Savard-Goulet en ce moment fonctionne bien pour
c'est
le Canadien.
Ça ne touche pas à ça.
Ouais. Moi, je ne toucherais pas à ça. Puis en 2034, à l'antichambre, là, quand je ne serai plus là, puis qu'on va faire
on
un reportage.
Là, ben, peut-être. En 12 ans.
Quand on va faire un reportage sur Caden Goulet, je suis convaincu qu'il va dire moi, au début de ma carrière, David Savard a été très important pour moi. Puis ça, David Savard, il y a eu quelqu'un qui est important pour lui quand il est arrivé aussi. Puis c'est toujours comme ça. Chaque joueur de hockey a eu son mentor à un certain moment. Puis cette combinaison-là est parfait, le droitier-gaucher, puis ça va bien.
C'est l'entraîneur qui doit gérer ça maintenant avec le retour de Madison. Martin Saint-Louis, on a l'impression qu'il réussit avec son surplus de joueurs à toujours quand même appuyer sur le bon bouton. Ça aussi, c'est...
La communication va être vraiment importante quand ce joueur-là va revenir. Autant entre le joueur et l'entraîneur, Martin ou Stéphane, l'entraîneur des défenseurs, là.
Il va falloir qu'il y en ait un qui paye le prix, comme tu as dit.
Rapidement, je veux vous entendre. Tu as parlé de Roberto Luongo, mais je veux vous entendre, Stéphane, sur Roberto Luongo ce soir qui fait son entrée.
C'est félicitations, c'est incroyable. C'est un gars qui n'a jamais arrêté de travailler. Est-ce que c'était le gardien qui avait le plus grand talent? Peut-être pas. Est-ce qu'il y avait-tu style à Patrick Roy ou à Martin Brodeur? Non, il avait son propre style, mais il gagnait des games, il gagnait des matchs.
Moi, je suis allé faire des reportages avec Roberto Luongo. Il jouait pour le Canadien de Montréal-Bourassa. Mm-hmm. Ça a été ton équipe aussi, Stéphane, dans les rangs midget. Il n'y avait pas une très bonne équipe, mais il réussissait à faire gagner. Puis aujourd'hui, dans ma balado-diffusion, j'ai parlé à l'ancien DG des Foreurs, Michel Georges. C'est ça qu'il me disait. Il me faisait penser à Patrick Roy avec les Bisons de Granby dans le temps. T'sais, il n'y avait pas une bonne équipe, mais il faisait gagner son équipe.
Une bonne personne, un bon joueur de hockey qui fait son entrée au temps de la renommée. Merci beaucoup. Merci. Stéphane, on fait une courte pause.